Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Thune, le premier podcast intime sur l'argent.
Dis-toi, le but, moi, c'est de payer le moins possible. Donc, tu auras toujours un paquet de pâtes et imaginons un pack d'eau et tout le reste, tout ce qui a de la valeur, c'est je le paye pas en gros. Voilà. Et je prends pas le premier prix, je prends toujours le top du top de la qualité de l'endroit où je suis, on va dire.
Mais avant l'épisode, j'aimerais vous rappeler que notre premier sponsor, c'est vous. Pour faire thune, vous savez qu'on a besoin de thune. Ça prend du temps, du travail de montage, de journalisme. Je vous épargne le fichier Excel des coûts. Mais à vous qui kiffez thune, pour assurer notre indépendance financière et pour que ça continue, eh bien, il n'y a qu'un moyen, la cagnotte Tipeee. Sur Insta, via le lien en bio, ou sur Google, en tapant thune podcast Tipeee, avec 3 E, T-I-P-E-E-E. Vous êtes déjà nombreuses, nombreux, mais on espère que vous le serez encore plus. Pour que Thune continue, je compte sur vous.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Aujourd'hui, je vais parler d'argent avec Julien, un jeune homme qui vole tout, ou presque. Il vole pour se nourrir, pour s'habiller, pour faire des cadeaux. C'est bien simple, dès qu'il veut quelque chose, il se sert. Alors Julien, il a toujours chouré. Par peur du manque, par défi, maintenant par habitude. Vous l'entendrez, pour lui, c'est carrément devenu un style de vie. Cet entretien m'a marqué, d'abord parce que Julien m'a fait penser au petit voleur de la chanson de Renaud. Souvenez-vous, c'était dans les années 90. Bon là, ça fait un mois qu'elle tourne dans ma tête. Et puis, j'en ai parlé avec des amis, et certains d'entre eux, intégrés avec des salaires tout à fait corrects, m'ont aussi avoué qu'ils se servaient de temps à autre au supermarché. D'abord, ça m'a fait marrer, parce qu'au fond de moi, je trouve que c'est pas si grave de voler des très riches. Et ensuite, je me suis demandé ce que ça racontait de l'époque, de la façon dont on subissait tous la pression financière, sagement, sans rien dire, en attendant que ça passe. Et quelle était dans cette transgression la part de respiration ? Et puis, est-ce qu'il y a des vols plus valables que d'autres, ou des voleurs plus légitimes ? Vous vous ferez votre idée. Bonne écoute. Alors Julien, tu as 34 ans, tu vis dans une grande ville française dont on taira le nom, par souci d'anonymat. Tu es antiquaire. Et alors toi, tu es venu nous raconter un truc assez particulier, c'est que tu voles dans les magasins.
Oui, exactement, ouais. C'est vrai. Ça doit faire maintenant presque 20 ans que je fais ça.
Alors, on va déjà, pour comprendre un petit peu le contexte, parler de toi, d'où est-ce que tu viens ?
Donc, j'ai grandi pauvre sur la Côte d'Azur. Ma mère était brocanteuse sur la Côte d'Azur, du coup, il y avait des hauts et des bas, mais on n'a jamais eu trop d'argent. On déménageait tout le temps, et on n'avait rien de... Il n'y avait rien de luxueux chez nous. Les voitures étaient toujours pourries. J'ai grandi sans argent, oui. Début 2000, où c'était la mode des Pokémon, et moi, je voulais toujours un t-shirt Pikachu, imaginons. J'avais un t-shirt Picadou, ou un truc comme ça. Tout était comme ça.
Ouais.
Une fois, je voulais, comme tout le monde, vers mes 16 ans, une mobylette. Et j'ai eu une mobylette, mais qui marchait pas. Quand j'aimais marcher, c'était toujours ça. Voilà. Je voulais des vêtements comme les autres, mais j'avais toujours le truc un peu qu'elle trouvait sur les brocantes, qu'elle pensait que je pourrais aimer, mais que j'aimais pas forcément. Ouais. Voilà. Que j'aimais pas du tout, en fait. Avec le recul, quand j'y pense maintenant, ça me fait plutôt rire. Maintenant, sur le coup, je pense que je réalisais pas trop. Ouais. Je me souviens quand j'étais gamin, quand il y avait des, comment dire, des journées carnaval, etc. J'avais toujours des gens étaient déguisés avec des thèmes. Moi, j'avais juste, elles mettaient tout ce qu'elles pouvaient sur moi et on faisait comme si j'étais déguisé, voilà.
Ouais.
Mais ça allait. Après, c'est des bons souvenirs quand même. J'ai eu une très bonne enfance. Vaut mieux, comment dire, ne pas avoir trop d'argent au bord de la mer qu'ici, j'imagine, mais Paris, je veux dire.
Donc toi, tu me dis que t'as pas fait trop d'études, t'as arrêté avant le bac?
En fait, j'ai commencé un sport qui m'a passionné quand j'avais 13 ans, je pense. Ça m'a complètement coupé du milieu scolaire et je pense que j'ai arrêté j'étais en troisième insertion. Donc pas de brevet des collèges et j'ai fait un CAP. Et plus tard dans l'adolescence, un peu avant mes 20 ans, je suis parti dans une autre grande ville française, mais toujours dans le sud, mais plus du même côté.
Et donc, tu as commencé à voler quand tu étais étudiant.
J'ai arrêté les études très tôt, mais donc j'étais plus étudiant, mais je pouvais plus faire de sport à ce moment-là, parce que j'ai fait beaucoup de sport étant adolescent. Je pouvais plus faire de sport, je pouvais pas travailler, j'avais un arrêt de travail pendant plus d'un an, et du coup, il fallait bien faire quelque chose. Ma mère me donnait pas d'argent de poche, du coup, j'étais un peu une sorte de zonard, mais un bon zonard, mais du coup.
C'est quoi un bon zonard?
Bah, je faisais de mal à personne, mais j'avais besoin de manger, etc., mais voilà. Je zonais, quoi, à cette époque-là. Je faisais surtout la fête, etc. Mais... Et sauf qu'à 24 ans, ma mère est morte. Et du coup, c'est là où j'ai eu, je pense, un déclic. Je me suis dit, j'ai 24 ans, j'ai pas de diplôme. Donc, j'ai fait un CAP cuisine. J'ai été cuisinier pendant quasiment 6 ans. Je suis parti à l'étranger pendant plus de 3 ans. Et à mon retour, du coup, en plein Covid, j'ai rencontré ma copine. Et du coup, naturellement, on s'est orienté vers ça. Mais j'ai toujours vendu des choses. J'ai toujours vendu des choses. Je commençais par la drogue quand j'étais plus jeune, mais la drogue douce, hein, on va dire. Et j'ai vendu des frigos, j'ai vendu des vélos, j'ai toujours vendu des choses.
Donc naturellement, tu t'es orienté vers la brocante, comme ta mère.
Même si je voulais pas faire ça, parce que j'avais vu aussi les mauvais côtés de la brocante, ça a été naturel pour moi d'aller dans ce milieu-là. Parce que j'avais tous les codes, plus que des gens qui aimeraient le faire, etc. Donc du coup, c'est fait naturellement. On vendait vraiment tout ce que je pouvais trouver dans la rue. Et après, on s'est spécialisé dans les années 50, années 90, surtout entre ces deux périodes-là. Et du coup, on va dire plus du design maintenant, on essaye ou des choses qu'on aime qui sont des beaux objets en général.
T'es un gros bosseur?
Je bosse énormément, ouais. Mais alors
Ouais.
que j'étais le plus gros des glandeurs gamin, mais adolescent surtout, mais maintenant, je bosse beaucoup, ouais. 10, 12 heures par jour sans problème. J'adore ce que je fais, du coup, je fais ça tout le temps.
Et ta copine, elle vient de ce milieu aussi?
Pas du tout, non. Elle vient d'un milieu artistique aussi, un peu. Son père était artiste, son grand-père était menuisier. Donc, du coup, elle a toujours un peu baigné dans ce domaine-là aussi. On s'est rencontrés, elle travaillait dans l'événementiel. Et donc, en plein Covid, tout ça s'est arrêté. Elle a été licenciée. Du coup, elle a commencé à vendre des affaires à elle. Donc là, on s'est dit, ah, c'est pas mal quand même, ça marche assez bien. Et au fur et à mesure, au début, on s'est dit, bah, tiens, ça nous paiera les restos. Après, ça peut même nous payer le loyer. Et au fur et à mesure, on vit de ça. Et donc, du coup, on a ouvert des statuts, etc.
Ouais, vous avez une boîte, quoi.
Deux boîtes. Une où on est tous les deux dessus et moi, j'ai une partie en plus.
Mais vous n'avez pas de boutique.
Non, et on n'en veut pas, non. Ça permet on a cette liberté-là de pouvoir faire ce qu'on veut, de nos horaires, etc. Mais non, on vend qu'en ligne. On a un site, etc., mais rien de physique.
Et alors aujourd'hui, vous gagnez votre vie avec ça?
On vit très bien. On est très content. Ouais. Le mois de janvier, en chiffre d'affaires, c'est notre meilleur mois. On a fait 15 000 euros de chiffre d'affaires. Et donc, je pense 15 000 euros, si on n'achète pas 1 000 pour vendre 1 500, on achète plutôt parfois très peu cher pour vendre cher. Donc, du coup, les marges sont assez conséquentes. Ouais. Mais après, on a quand même un atelier, on a quand même pas mal de frais, mais non, non, on est très content. Ouais. Il y a de la marge, quand même, on va dire.
Donc voilà, donc vous vivez plutôt bien, vous habitez ensemble.
On habite ensemble, on vit très bien et on est très contents.
Vous êtes tous les deux.
Tous les deux, on travaille ensemble, amoureux.
Au quotidien, vous êtes avec ta compagne, vous êtes plutôt économe ou dépensier?
Économe, sauf, mais on va tout le temps au resto. On adore manger, donc ça fait partie de notre plus grande dépense, mais celle qu'on regrette le moins, je pense.
« Alors Julien, bah, maintenant qu'on a le contexte de la façon dont tu vis, on va parler de la raison pour laquelle tu es là aujourd'hui à ce podcast, c'est le fait que tu continues à voler régulièrement. Et tu vas nous dire un petit peu pourquoi, comment. Tu voles dans les magasins depuis que tu as une vingtaine d'années. Est-ce que tu t'es déjà arrêté?
Jamais. Non, je me suis jamais arrêté. Ça a toujours été limite crescendo. Non, au début, je volais vraiment... Quand on est ado, je pense qu'on vole un peu n'importe quoi, surtout des choses qui n'avaient pas trop d'intérêt. Maintenant, j'essaye de faire attention à ce que je vole pour pas voler trop, mais voler mieux, on va dire.
Alors, qu'est-ce que tu voles?
Alors, je vole du coup tout ce qui est alimentaire, parfois aussi l'alcool, mais on parle de bonne bière, etc., mais pas d'alcool fort. Ça peut être aussi, je sais pas, des enceintes, des écouteurs, ça peut être des vêtements, beaucoup de vêtements. J'ai eu une période, à un moment, vêtements techniques, et du coup, c'est assez cher, donc du coup, je me suis fait plaisir, et du coup, quoi d'autre? Non, ça peut être tout et n'importe quoi, mais uniquement dans les magasins. Jamais chez un petit producteur ou jamais chez quelqu'un à son compte, non, des grosses enseignes en général.
Effectivement, il y a une sorte d'éthique à tout ça et on y reviendra après. Ça représente combien de fois par semaine?
C'est plutôt combien de fois par jour, mais tout le monde va plus ou moins faire une fois les courses par semaine, des grosses courses. Moi, je fais jamais ça. Je fais plutôt peut-être une à deux fois les courses par jour, mais je vais acheter une bouteille d'eau et en général, le reste, je le vole.
Mais on parle de quoi? Je sais pas, tu vas dans une enseigne.
Imaginons, hier je suis allé à Monoprix, ça peut être une bouteille d'huile, celles qui sont à 20 € quand j'en ai besoin. Ça peut être aussi, imaginons, ça peut être tout, de la viande, du poisson, tout. Imaginons, il me faut des outils. Je suis dans un magasin de bricolage comme une grande enseigne et je me sers en outils. C'est tout est comme ça.
Mais tu te sers, tu les mets dans tes poches?
Je les mets dans mes poches, je les mets dans mon pantalon. Des fois, je les scanne pas aussi. Souvent, là où il y a les scanneuses, il y a des balances, mais elles marchent. Pour la plupart, elles ne marchent pas. Ou des fois, il y a même pas de balance. Donc, du coup, mais avec, on va dire, l'expérience, etc. Du coup, j'ai même plus peur ou de doute. Donc, du coup, je doute même pas. Les gens remarquent pas que je le fais. Donc, c'est assez naturel maintenant. C'est pas comme si c'était ma première fois, je suis tout rouge, je suis gêné, etc. Maintenant, j'ai, comme dans toute chose, quand on connaît, c'est hyper simple. Ouais. On regarde les regards des gens, on comprend un peu ce qui est en train de se passer. Toutes les fois où j'ai pu me faire arrêter, j'avais compris que ça allait mal se passer. Mais je me suis dit, bon, j'ai rien à perdre et au pire, je me fais arrêter, quoi.
Bon, là, je te vois, t'es en face de moi. Je vais dire un truc... hyper cliché, t'as pas une tête de voleur. Si tant est qu'il y ait une tête de voleur en réalité, on sait bien qu'il n'y a pas de tête de voleur, mais non, t'as une bonne tête. Ouais. T'as des petites lunettes rondes, t'es habillé, t'as l'air très sympathique. Est-ce que tu penses que ça, c'est un truc qui joue en ta faveur?
Je pense que ça aide, c'est sûr, ouais. Je sais qu'il y avait des gens qui faisaient plus ça pour vivre, donc du coup pour voler et revendre. Et eux, ils essayaient de s'habiller le mieux possible, de pas paraître comme un voleur, c'est sûr. Et pour ma part, je reste naturel et c'est vrai que j'ai pas du coup le physique de l'emploi, même s'il y en a pas. Et ça aide, c'est sûr. Ouais.
Ça a l'air très facile. La façon dont tu nous expliques ça, ça a l'air assez simple. Mais on vit quand même dans un monde où il y a des antivols partout. Ça sonne tout le temps.
Pour l'alimentaire, il y a quasiment jamais d'antivols dessus. Imaginons si c'était l'alcool fort, j'imagine qu'il y a toujours des antivols mais les bonnes bouteilles de vin, etc. Je crois que c'est pas vraiment de moyenne, mais en dessous de 30 € la bouteille, il n'y a pas d'antivol. Donc, tu peux facilement prendre une bouteille et ça sonnera pas. Et imaginons qu'il y a un antivol, il y a toujours des façons de les enlever ou de... Je suis pas dans ce truc-là où il faut tout le temps enlever les antivols, les arracher, où il y a des gens qui ont des aimants, etc. Ou j'ai des amis qui faisaient plus ça dans notre milieu, mais qui avaient eux des sacs en alu. Et moi, je fais pas du tout ça, mais donc, du coup, tout existe. On peut toujours enlever les antivols, ou en tout cas, ne pas les enlever, mais qui sonnent pas au niveau des portiques.
Mais du coup, tu te balades toujours avec un sac à dos?
Non, pas du tout. Non, je fais pas ça en mode je remplis le sac et je rentre chez moi. Non, c'est juste que, imaginons, je vais travailler à mon atelier le matin. À midi, je me dis, bon, tiens, je vais aller à Monoprix, par exemple, et je vais prendre ce que j'ai besoin pour le soir ou ce que j'ai besoin si je veux, je sais pas, ne serait-ce qu'une bonne boisson ou un petit dessert ou si j'ai besoin il me manque quelque chose. du dentifrice ou c'est tout un peu à la con, mais c'est tout est comme ça. En fait, maintenant que j'y pense, c'est compliqué de dire c'est un truc qui ce que je pourrais voler qui coûte cher parce qu'en fait c'est le quotidien, c'est la récurrence qui fait que ça devient cher, mais en fait là en soi ça dépasse jamais 20-30 euros par fois où j'y vais, je pense. Puis c'est pas le but de prendre le plus cher possible, mais prendre vraiment ce qu'il nous faut.
Mais quand tu prends une grande bouteille de vin, tu la mets où?
Dans mon pantalon. Surtout l'hiver, c'est hyper simple, t'as toujours une écharpe ou un blouson, tu peux vite camoufler, quoi. Puis une bouteille, imaginons, t'essaieras, mais tu verras, c'est vite dissimulable. Ouais.
Tu t'es fait quelquefois contrôler? Grillé?
Plusieurs fois arrêté par la sécu, mais c'est pas... En fait, quand tu sais que tu risques peu de choses, voire rien, tu peux aller. Si j'avais pas les moyens de payer, peut-être que ça me ferait plus peur, mais du coup, d'avoir les moyens, etc., sachant qu'il y a aucun risque, donc du coup, j'y vais à 100%, ouais.
J'y vais à 100%, ça ressemble, tu sais, aux sportifs ou aux entrepreneurs qui disent « Ah, mais moi, j'y suis à 100% ».
Les peu de fois où je me suis fait arrêter il y a longtemps, même plus ou moins récemment, au pire, tu payes et tu t'en vas.
Il se passe rien de plus.
Non, une fois, ils ont dit oui, on va envoyer une lettre au procureur et du coup, ils me demandaient une plaque d'immatriculation, etc. Mais du coup, j'aurais donné une fausse et ça s'est arrêté là.
Et si tu te fais arrêter deux fois dans le même magasin?
À l'époque, là, il y a quelques années, je m'étais fait arrêter plusieurs fois dans le même magasin. Et il m'avait dit, vous attendez décembre, fin décembre, toutes les fiches qu'on a de vous, on les jette en gros, et on recommence l'année en début janvier, donc du coup, vous pouvez revenir l'année prochaine.
Donc ils t'ont dit texto, tu peux revenir chourer à partir de l'année prochaine.
C'est pas comme un fichier où, tu sais, c'est la sécu d'un magasin et ça s'arrête là. Hein.
Est-ce que t'as l'impression qu'il y a une forme de compréhension de la part des gens de la sécu qui eux-mêmes sont très mal payés et puis voient des gens qui vont voler de la bouffe, donc n'ont peut-être pas envie plus que ça de les emmerder au fond du fond?
Plusieurs fois, j'ai vu des gens de la sécurité qui savaient, mais qui n'ont rien dit. Comme je pense à une fois, là, c'était il n'y a pas si longtemps, il y a quelques mois, à un moment, j'avais volé, mais c'était... Je savais que j'allais être arrêté, et je me suis quand même fait arrêter. C'était une boîte de chapelure pour Tempura, bref. Et je sais qu'ils m'ont fouillé, et le mec de la sécu a senti quelque chose au niveau de mon pantalon, et il m'a regardé, je l'ai regardé, et ça s'arrêtait là, mais...
Et t'as laissé passer?
Il m'a laissé partir. Je pense qu'ils doivent pas gagner grand-chose, ils savent que c'est dur, ils doivent pas aller dans les magasins les plus chers non plus, donc c'est quand même dégueulasse que... Les choses sont trop chères, surtout ça dépend où t'habites, je pense comme ici à Paris, etc. C'est plus cher que dans d'autres villes. Et ouais, c'est trop cher, on devrait tous pouvoir s'acheter ce qu'on a besoin et non pas le premier prix. C'est terrible, ça.
Oui, sauf que toi, tu ne voles pas forcément ce dont tu as besoin. Tu voles ce qui te fait envie.
Oui, exactement. Mais je vole ce que j'ai envie, donc je me crée le besoin, c'est sûr. Mais je manque de rien. Ça, c'est ce dont j'avais besoin, je pense.
Ça va être quoi les trucs les plus extravagants que tu vas voler au quotidien?
Aujourd'hui, je vole rien d'extravagant. Non, des livres ou des vêtements, etc. Mais d'extravagant aussi. Plus jeune, dans une autre époque, du coup... J'ai déjà volé des poulets rôtis, des homards, un truc comme ça, plus pour faire un peu rire mes potes, mais j'ai volé tellement de choses, mais je sais pas, ça... non, extravagant, non.
Mais par exemple, sur un panier de courses, ça va être quoi le pourcentage que tu vas voler?
Dis-toi, le but, moi, c'est de payer le moins possible, donc tu auras toujours un paquet de pâtes et imaginons un pack d'eau et tout le reste, tout ce qui a de la valeur, c'est je le paye pas, en gros. Et je prends pas le premier prix, je prends toujours le top du top de la qualité de l'endroit où je suis, on va dire.
T'es sensible aux marques?
Je fais attention, ouais.
Ouais.
Une fois, j'avais un ami qui avait... C'était pour Noël, mais il y a longtemps. Au tout début, je pense. On était partis voler pour Noël, pour qu'on ait du foie gras, etc. Et lui, il avait volé du saumon Eco Plus. Trop habitué à pas pouvoir se le payer. Mais voilà.
Est-ce que tu voles bio?
Je vole bio, mais jamais dans les... Petit magasin, je vole bio dans les grands magasins, ouais. Mais c'est pas forcément le meilleur non plus, vaut mieux voler local, on va dire.
Tu estimes à combien d'euros d'économie par mois ce que tu voles?
Je dirais entre 800 et 1000 euros par mois. Je pense, vu que tu regardes les prix, mais tu regardes ce qui est cher et non pas le moins cher, donc ça monte vite quand même. Et vu que j'y vais plus ou moins deux fois par jour, je pense que ça monte très vite, ouais. Surtout qu'on est deux, donc je vole
avec ta
toujours
copine.
Pour deux aussi.
Ouais. Est-ce que ta copine le sait?
Ma copine le sait et elle a même commencé à le faire. Et depuis, elle a fait beaucoup d'économies. Ouais.
Comment ta copine s'est rendue compte que tu avais un petit penchant à remplir tes poches?
C'est pas courant, mais dans mon milieu, ça veut dire que ça a été, tout le monde l'a toujours fait ou tout le monde l'a fait un jour.
Pourquoi donc, c'est quoi ton milieu?
Un milieu où à l'époque, on n'avait pas trop d'argent, donc ses amis-là sont restés, mais c'était un milieu de, du coup, un peu skate, BMX, etc. Donc du coup, c'est un peu...
Il y a une culture du vol dans ce milieu?
Ouais, il y a une culture de la contre-culture. J'ai des amis qui sont dans le milieu du graphe aussi, donc du coup, là, c'est une grosse culture vol. Non, mes amis sont comme ça, après, c'est pas, je peux faire de clichés, mais sinon, comment ça s'est passé avec ma copine? Là, j'ai même mal pris ou autre, elle m'a jamais, au début, en tout cas, dit quoi que ce soit. Elle a commencé aussi parce que les choses étaient trop chères, même si elle avait de quoi s'est payé, mais.
Ça n'a jamais été un sujet sensible au sein de votre couple? Elle t'a jamais dit, Julien, ce serait bien que tu ailles un peu mollo.
Non. Comme hier, je lui ai fait une surprise en lui volant un livre. Quand elle a vu le livre, elle était très contente. Mais quand elle a vu que quand elle a su que j'avais volé le livre, elle faisait un peu plus la gueule. Mais sinon, elle vole tout sauf les livres, je pense.
Ah oui, donc il y a quand même un respect de l'objet livre qui fait que.
Ouais, les livres, c'est quelque chose. Mais j'avais déjà lu quelque chose sur ça, que c'est vraiment un. Est-ce qu'on volait un livre ou pas, c'est correct ou pas mais...
Bah, d'ailleurs, quand on s'est parlé au téléphone avant cet entretien, tu m'as dit que tu avais écouté l'épisode avec Franck Courtès, ouais. Qui est un écrivain qu'on a reçu donc, à ce podcast, qui raconte combien il est difficile de gagner sa vie quand on écrit des livres. Et tu m'as dit ce jour-là au téléphone, j'ai volé son livre, je l'ai trouvé super, mais après je m'en voulais un peu quand même.
C'est vrai. Et pour autant, j'ai pas arrêté de voler des livres, mais c'est peut-être une chose que j'aimerais arrêter un jour.
Ouais.
Seulement les livres.
Et elle y trouve quoi comme avantage, ta copine, à ce que tu puisses voler?
Déjà un avantage financier. Au quotidien, on a deux façons de faire complètement différentes. Plus méticuleuse, tu vois, elle va regarder où sont les caméras, elle veut pas se faire attraper. Alors que moi, je suis plus avec l'expérience, je sais que je peux me permettre des choses que elle ne pourrait pas se permettre, mais donc du coup deux façons de faire, mais les avantages, non, juste l'économie au quotidien.
Est-ce que tes amis le savent?
Oui, je pense que tout le monde le sait. Même la mère de ma copine le sait.
Elle dit quoi?
Ça la fait rire, je pense. Est-ce que ça la fait rire vraiment au fond? Elle m'a jamais dit que ça la dérangeait en tout cas, mais je peux comprendre que ça dérange, ouais. Mais elle m'a jamais rien dit.
Est-ce que des gens t'ont déjà dit « mais en fait, t'es klepto ?»
J'ai pas d'envie de vol au quotidien, etc. C'est vraiment que dans les grandes enseignes, parce que je volerai jamais des gens, jamais voler des gens. Donc, du coup, je pense pas.
Tu me dis qu'il y a des enseignes que tu ne voleras jamais, que tu ne voleras jamais les gens. Il y a donc une déontologie dans la façon dont tu vas chourer.
Ouais. Quand je vais au marché le matin, je vais pas voler les producteurs, je ferai jamais. Je préfère les sous que j'économise, je préfère leur donner à eux, tu vois.
Est-ce que t'as l'impression, quelque part, d'être une espèce de justicier? Pas de justicier, mais un côté Robin des Bois. Disons, je vole aux riches pour donner aux pauvres, à moi-même. Mais, ouais. Alors que tu n'es pas pauvre. Mais est-ce qu'il y a un aspect comme ça, un aspect, bon, après tout, c'est un juste retour des choses?
Pas tout le temps, malheureusement, mais j'ai parfois volé pour donner à des assos qui étaient devant, etc. Mais ouais, je pense qu'on devrait tous pouvoir s'acheter n'importe quoi, mais ouais. Mais non, je suis pas du tout un Robin des Bois, malheureusement, non.
Ça a pas la même valeur, en fait.
Alors, je peux lui voler n'importe quoi, elle va être contente, mais les livres, non, ça a pas la même valeur. C'est pas une question de valeur, c'est le fait que ce soit un livre et quelqu'un comme Franck Courtès ou autre, peut-être ne reçoivent pas l'argent, même si je pense que il est déjà payé par l'enseigne.
Ah bah non, c'est...
Sûr.
Ah oui, il y a un nombre, il est payé aussi à la vente, ouais.
Après, s'il touche 2 euros par livre, je préférerais lui donner en main propre. Mais...
Est-ce que ça t'arrive de voler des cadeaux pour des gens?
Honnêtement, grande partie des cadeaux que je dois offrir, etc. Malheureusement, c'est souvent des livres, j'ai l'impression. Et ben, je les vole, ouais. Donc oui. Mais des beaux livres, pas forcément des livres d'auteur, mais des livres un peu plus spécialisé, on va dire.
Toi, t'as grandi dans un milieu où il n'y avait pas trop d'argent. Est-ce que t'as eu l'impression d'en ressentir une forme de jalousie ou de colère envers des populations plus aisées?
Ouais, au fond de moi, je pense que j'avais une colère. Peut-être que j'ai toujours, aujourd'hui, ouais. Une colère des gens qui... Pas ceux qui ont de l'argent, mais ceux qui, selon moi, le dépensent n'importe comment. Ouais. Une fois, dans un podcast, il y a une personne qui parlait, qui dit « Oui, on a dépensé 10 000 euros au restaurant. » Je comprends pas comment on peut faire ça.
T'as un petit côté lutte des classes, tu sens que...
Ouais, au fond de moi, ouais. Bien sûr, quand tu viens d'en bas, je pense que... Les choses qui te révoltent, ouais. Et en grandissant, ça te révolte encore plus, je pense, mais...
On le sait, hein, là, on est en période d'inflation, les choses sont de plus en plus chères, il y a de plus en plus de vols dans les magasins. Il y a eu beaucoup de reportages sur le fait qu'il y avait une augmentation des vols, notamment dans les magasins d'alimentation. Est-ce que tu vois des gens, toi qui connais un peu les techniques, est-ce que tu vois maintenant davantage de gens qui vont se servir à mettre des choses dans leur poche?
Davantage, je sais pas, mais j'ai toujours vu des gens qui le faisaient. En le faisant, tu reconnais plus facilement ceux qui le font aussi. Plus qu'un vigile le verrait, je pense. Mais souvent des jeunes ou des sans-abri qui vont voler de la bière, un peu cliché, mais c'est vrai. Les mamies, les petites mamies ou les gens un peu âgés qui vont voler peut-être de la viande ou autre. Mais oui, il y a toujours. On le voit, même les étudiants qui arrivent pareil aux caisses automatiques là, qui ne scannent pas pour pouvoir. Mais le problème, c'est que ces gens-là, ils le font par nécessité. Et du coup, ils se font souvent avoir, ouais, parce que ça se voit. Ils font pas d'une manière détachée, je pense. Mais...
Contrairement à toi, chez qui ça se voit pas.
Ouais.
Est-ce qu'il y en a qui te font de la peine?
Forcément, bien sûr. Bien sûr, même des fois, la sécurité me fait de la peine.
Tu me parlais en début d'entretien de la notion de plaisir.
Ouais.
Ce plaisir-là, il est toujours présent quand tu voles? Tu voles par plaisir, tu peux le dire?
Par pur plaisir, je pense. Parce que je pourrais m'acheter n'importe quoi, mais du coup, ouais, le fait d'entrer dans un magasin et de dire... Je peux tout prendre et rien va me coûter de l'argent. C'est quand même plaisant, on va dire. N'importe où. N'importe quelle boutique, là. Parce qu'on parle depuis tout à l'heure de tout ce qui est alimentaire, mais ça peut être des vêtements, etc., ou des magasins sur le sport extérieur, etc. Tu peux tout prendre. Tout. Et plus c'est gros, plus ça passe, j'ai l'impression.
Quand on parle de vêtements, tu voles plutôt des vêtements, on va dire, de sport, technique, dans des grandes enseignes?
Oui, de l'équipement, on va dire, sportif. Voilà. Qui coûte cher en général.
Tu vas pas dans les magasins, dans les grandes marques de luxe?
Non, pas du tout. Je suis pas du tout intéressé par ça. Si j'aime aller, ça m'intéresse pas. Je me verrais pas porter ce genre de choses. Donc non.
Mais il y a des antivols sur tous les vêtements.
Imaginons, il y a une enseigne de sport qui est peut-être la plus connue en France, qui est pas forcément haut de gamme, même s'il y a des choses qui sont bien. Et il y a des antivols partout, mais en fait, sur l'étiquette, c'est marqué qu'il y a un antivol. Et si on sait comment faire, on peut facilement l'enlever et sortir avec tout ce qu'on veut. Du coup, il y a l'étiquette du produit. Derrière, il y a un autocollant avec un code-barre magnétique dessus. Il suffit de l'enlever. Donc, du coup, quand on partira au niveau des portiques, ça sonnera pas, tout simplement. Mais si on ne sait pas, n'importe qui essaie de mettre ça dans son pantalon ou autre, ou le mettre sur soi, sort et il va sonner directement. Les choses sont simples en général.
Ce plaisir que tu as à voler, est-ce que tu sais ce qu'il y a dedans? Il y a une impression de puissance, de se dire je peux prendre tout ce que je veux. Il y a une satisfaction de pouvoir consommer sans te limiter. Il y a de l'ironie aussi, il y a de l'humour. Enfin, qu'est-ce qu'il y a dans ce plaisir-là? Il y a un fond de rébellion.
Je pense qu'il y a un peu tout ça, ouais, forcément. Mais peut-être le manque de l'enfance ou je sais pas. Mais ouais, mais après je vole pas tous les jours pour. Juste en avoir le plus possible, non, c'est juste pouvoir prendre ce qu'on veut, quand on veut. Ouais. C'est quand même assez plaisant, ouais.
Il y a de l'adrénaline?
100%. D'où le plaisir, je pense. Mais...
Encore de l'adrénaline alors que...
Ouais, plus c'est gros, plus c'est cher, plus il y a de l'adrénaline, ouais. Comme la veste qui est derrière, celle-ci, malheureusement, j'aurais pas dû la voler, mais je suis content de la voir, mais c'était ma plus grosse peur et c'était de la peur que du plaisir pour le coup, mais... Le prix était trop cher et je me suis dit... Et en plus, c'était pas le bon endroit, j'aurais pas dû faire.
Elle coûtait combien?
700 euros.
Ah ouais?
Pourtant, elle paraît pas, mais...
700 euros mais dans un magasin donc de marque?
De marque, mais ouais, mais pas de luxe. Bah, de luxe, mais dans un certain domaine, ouais. Mais je l'ai depuis maintenant 8 ans, je pense. Donc du coup, je suis content à ce niveau-là, mais j'aurais pas dû le voler à ce magasin-là.
C'était un petit magasin?
Pas si petit, mais un peu trop éthique. J'aurais pas dû. Voilà. Mais elle me sert, au moins.
Oui, et puis t'en prends soin. 8 ans après, elle est toujours là.
Ouais, elle m'a toujours suivi, j'en prends soin.
Jouer avec le feu, c'est un trait de ton caractère? T'aimes bien ça?
Le vol, c'est aussi une sorte de une mentalité. Il n'y a pas que le vol en soi, il y a aussi frauder le métro, frauder le bus, pas tout déclarer. C'est un ensemble de choses. C'est plus une façon de vivre que seulement voler, je pense déjà. Au fond de moi, c'est un peu ma nature. Peut-être le milieu dans lequel j'ai grandi, etc., qui a fait que ma mère, elle a travaillé 40 ans et 40 ans en black. Elle a jamais déclaré quoi que ce soit. On se fait partie de mon éducation, je pense, dans un sens.
Ta façon de vivre, c'est d'être finalement quand même un peu intégré, mais un petit peu hors des clous, quoi.
Intégré et hors des clous, exactement, c'est ça. Ouais.
C'est un petit doigt d'honneur que tu fais quand même au système.
Dans un sens, ouais. Parce que quand ma mère est morte, en fait, quand elle est morte, elle avait rien à léguer. Ça, c'est pas un souci de rien avoir, mais c'est passer toute ta vie à travailler pour une société et à la fin, rien du tout. Et j'ai trouvé ça dur parce que le jour de sa mort, etc., avec mon frère, on est allé à la banque pour voir si on pouvait retirer quelque chose, etc. Et je crois qu'il y avait 50 euros sur le compte. Et il y avait, du coup, pour l'héritage, il y avait 20 000 euros de dette. Alors, du coup, j'ai dû refuser l'héritage. Et je me dis, putain, c'est dur quand même. Toute ta vie à trimer comme un dingue. Et à la fin, il te reste rien. Et du coup, ça a été un peu... Je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Ouais. Donc, du coup, dans tous les sens, j'ai fait des choses. Ouais. Je me suis lancé dans le travail... Et j'ai volé plus. J'ai volé pour manquer de rien, je pense.
Ce que tu me dis, c'est que c'est quasiment identitaire aujourd'hui.
Ouais, c'est en tout cas, ça fait partie de moi, on va dire, 100%.
Avec tout ce que tu me racontes, qu'est-ce qui pourrait te faire arrêter?
Je me vois pas pour l'instant. Je me trouve aucune raison d'arrêter. Ouais. Vu que je fais de mal à personne, je vole pas des gens, je vole pas. Non, je pense pas arrêter.
Est-ce que tu t'es déjà senti jugé?
Jugé, ouais. Mon grand frère m'a déjà jugé parce que lui, il a toujours été dans les clous. Lui, il a eu justement le rejet de comment avait vécu notre mère, tu vois, en faisant que du black et tout. Mais donc, il a toujours tout déclaré, il a toujours tout payé, etc. Mais il avait jugé ma façon de vivre. Ouais. Et ça, du coup, on a arrêté de se parler pendant peut-être 5 ans.
Et par des amis?
Des amis, non. Non, mes amis proches, ils l'ont fait, la plupart le font plus, mais j'aurais demandé pourquoi vous le faites plus, alors que vous l'avez déjà fait. Oh, on en a plus besoin, tout simplement. Quand je me fais attraper, ça m'est déjà arrivé, donc du coup, les gens me regardent bizarrement comme, ah, le voleur. Tu te sens jugé par tout le monde, ça c'est terrible, mais alors, bon, au fond, c'est un petit mauvais moment à passer, mais
ouais.
Faut que t'es sorti, ça va.
Et ça, par exemple, le fait que finalement, les sanctions soient très légères, voire, inexistante hein, quand tu voles dans
France,
un magasin en France, voilà. Est-ce que si les sanctions se durcissaient, ça te ferait peut-être arrêter de voler?
J'ai déjà volé dans un pays où ça craignait vraiment de voler. Au Japon, j'ai vécu un an là-bas. Pendant un an, j'ai volé. Et la sentence, je sais que c'était la prison ferme, et je pense que c'était encore plus excitant, même si ça me stressait énormément.
Ah ouais.
Au quotidien.
Et est-ce que tu penses qu'avoir des enfants, par exemple, pourrait te faire arrêter de voler?
Moi, je pourrais dire ça si quand j'en aurais, mais pour l'instant, je me vois pas arrêter, toujours pas. Mais est-ce que ça me dérangerait si eux volaient? Je pense pas. Je sais pas. Honnêtement, non. Je sais pas.
Et qu'est-ce que tu dirais à un enfant qui te demande si c'est mal de voler?
Je dirais, ça dépend qui tu voles.
Est-ce que l'honnêteté, c'est une valeur qui est importante pour toi? Et qu'est-ce que tu mets dedans?
L'honnêteté, c'est important. Mais dans quel sens tu me demandes ça?
De l'honnêteté, pour savoir ce que tu mets dedans, justement, pour comprendre...
L'honnêteté?
Ouais.
J'arrive pas à voir comprendre le lien avec le vol.
Avec le vol, bah c'est il est honnête. Bah il y a le vol dedans, c'est être honnête. C'est un individu honnête, on vole pas.
C'est vrai. Ouais. Et bah c'est important, mais c'est pour ça que si on le fait mais en ayant des valeurs, je pense que ça vient un peu corriger le pas, ouais.
Voleur avec des valeurs.
Voilà.
Cet argent économisé par moi que t'estimes entre 800 et 1000, tu le mets de côté?
Une fois, j'avais dit à ma copine quand j'ai rencontré, ah putain, regarde, je suis parti de rien, etc. J'ai quand même pas mal d'argent d'épargner. Donc j'épargne et du coup aussi, quand je vais au restaurant, quand je vais au marché, ça me dérange pas du tout de dépenser.
T'as mis combien de côté aujourd'hui?
J'ai plus ou moins 70 000 euros, je pense.
Ah, quand même?
Ouais, bah, c'est beaucoup et pas beaucoup. Ça dépend pour qui, mais... Ouais, 70 000 euros de côté.
T'es locataire ou propriétaire?
Locataire, je suis venu à Paris pour acheter quelque chose, là. C'est pour ça que je suis là.
Acheter quoi?
Un appartement.
À Paris?
Ouais, on a visité dans le 13e parce que ma copine est asiatique, du coup, on voulait un quartier un peu asiatique, quoi. Voilà. Donc, on était allé voir l'appartement, mais il était déjà vendu, en fait. Ils l'ont vendu ce matin.
Avec ton épargne?
Non, il y a aussi l'épargne de ma copine. Ouais. Elle qui vient d'un héritage, mais... Donc, du coup, les deux combinés, ça faisait assez.
T'aimerais devenir propriétaire?
100%. Ouais. Bien sûr. Un peu de sécurité, ça fait de mal à personne. Ouais.
T'as quand même, en fait, une conscience assez aiguë de ce que tu ne dépenses pas et t'es capable de le mettre de côté, quoi.
Sans diplôme, sans argent, c'est trop compliqué. Du coup, j'ai tout mis en œuvre pour y arriver, quoi. Donc, du coup, et je pense que le vol, ça aussi, ça m'a aidé à arriver là où j'en suis actuellement, ouais. Mais après, je suis pas dépensé non plus. Donc, du coup, ça, tous ces choses, ça fait un ensemble qui marche assez bien, ouais. C'est pas juste voler pour voler. Je pense que l'ensemble, tu vois, ça, mon boulot, fait que j'épargne depuis que je suis gamin, etc., ça, tout va dans le même sens. Je suis assez content de ce que je fais.
Toi, aujourd'hui, tu te considères comme plutôt économe?
Ouais. Même si je me fais plaisir, c'est pas un souci, mais ouais, économe, ouais.
Aujourd'hui, tu dépenses combien par mois pour vivre?
Je tiens pas du tout mes comptes, je vois jamais mes comptes. Avec notre travail, on fait beaucoup d'espèces, du coup, on paye tout en espèces, donc mes comptes ne bougent jamais, mais je sais pas exactement combien je dépense par mois. Je fais attention, j'ai toujours fait attention, du coup, c'est jamais un problème.
T'es jamais à découvert?
Non, depuis, non, jamais. Je peux pas l'être, tu vois, dans un sens. T'as de l'épargne, c'est aussi ça, quand t'as l'épargne, etc., c'est toute la vie, elle est différente, tu vois. Quand t'as pas de sous, j'ai connu où j'avais pas de sous, à découvert, Banque de France, avec ma mère ou moi seul quand j'étais gamin, mais plus jamais tu veux vivre ça, ouais. Je te promets que ça, moi, ça m'a refroidi directement, ouais.
Merci, Julien.
Merci à toi.
Vous avez encore écouté un épisode de Thunes, un podcast de Laurence Velly et Anna Borel. Cet épisode a été réalisé par Laurence Velly, monté par Frédéric Fortuny et accompagné d'une musique d'Emma Bitson. Si vous aimez Thunes, vous pouvez nous soutenir. Le plus simple, c'est des étoiles et des commentaires sur vos plateformes d'écoute. Pour nous contacter, vous pouvez passer par Facebook ou notre compte Instagram. Nous avons aussi lancé une cagnotte Tipeee, parce que donner un peu de Thunes à Thunes, ça fait sens et on en a besoin pour continuer. Vous la trouverez dans le lien de la bio de notre compte Instagram. Merci et à très bientôt.